Un petit peu en avance, c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel.
Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous. Et nous commencerons ce journal avec les annonces hier soir du Premier ministre sur un durcissement à venir du prochain déconfinement, en particulier pour le monde de la culture. Et puis nous verrons également comment le gouvernement entend continuer de soutenir massivement l'économie en élargissant le fonds de solidarité.
À la veille du 5e anniversaire de l'accord de Paris, les 27 États membres de l'UE ont donné leur feu vert ce matin à une réduction des gaz à effet de serre d'au moins 55% d'ici 2030.
Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction dans une quinzaine de minutes, Dominique Bourg, philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, spécialiste des questions environnementales. Enfin, à l'étranger, nous tâcherons d'entrevoir les conséquences possibles de l'accord obtenu du Maroc. Hier, le Royaume a accepté de normaliser ses relations avec Israël en contrepartie de la reconnaissance par les États-Unis de sa souveraineté sur le Sahara occidental. Si ces derniers jours, l'exécutif avait en partie préparé les esprits à un déconfinement plus restrictif qu'envisagé, en raison de la situation sanitaire plus mauvaise qu'espérée, force est de constater que le pays restera encore et surtout très largement verrouillé à partir du 15 décembre prochain. Certes, les Français retrouveront la liberté de circuler en journée partout sur le territoire et sans besoin de présenter d'attestation. En ce sens, et comme promis donc par Emmanuel Macron, la France sortira bel et bien du confinement mardi prochain. En revanche, un couvre-feu plus sévère sera appliqué à partir de 20h tous les jours, à l'exception de la soirée de Noël. Les entreprises sont priées partout où elles le peuvent de ne pas reprendre un rythme de travail normal. La réouverture des musées, cinémas et théâtres est à nouveau repoussée de 3 semaines. Toujours, selon la même logique, les tribunes de sport resteront fermées. Les jauges de fréquentation pour les lieux de culte ne seront pas revues à la hausse. Enfin, chacun devra rester chez soi le 31 décembre et pour mieux s'en assurer, non seulement le ministre de l'Intérieur a prévenu qu'il n'y aurait pas de consigne d'indulgence, mais plus encore Gérald Darmanin a précisé que les contrôles seraient même renforcés. Ou dit autrement, si nous ne sommes pas sortis de la deuxième vague, ainsi que l'a reconnu hier le ministre de la Santé, Olivier Véran, nous ne sommes pas davantage véritablement sortis du deuxième confinement. Alors évidemment, et sans surprise, cette liberté de circuler recouvrée, mais amputée de la joie de se divertir, a été reçue comme une véritable douche froide par les professionnels du monde de la culture, conscients de la colère qui gronde. Le gouvernement a toutefois promis de poursuivre son soutien économique. Claire Flochel, bonjour.
Bonjour.
Après les 7,5 milliards d'aides déjà apportées au secteur, la ministre Roselyne Bachelot a précisé ce matin qu'il faudrait encore 35 millions supplémentaires pour finir l'année. Pas sûr en revanche, Claire, que le baume suffira à apaiser la douleur.
Combien d'artistes ne survivront pas? Combien de jeunes vont abandonner leurs rêves? Voilà ce qu'a écrit par exemple sur les réseaux sociaux le violoncelliste Gauthier Capuçon. Et en effet, depuis mars dernier, des centaines d'artistes, techniciens, des précaires ont abandonné leur métier, leur passion. Interviewée sur BFM ce matin, la ministre de la Culture s'est voulue compatissante avec le secteur en commençant par se déclarer émue.
D'abord, je veux dire que c'est un crève-cœur. Je crois que c'est un crève-cœur pour le milieu de la culture, c'est un crève-cœur pour la ministre de la Culture.
Roselyne Bachelot a ensuite expliqué que le nombre de contaminations était encore trop élevé, 14 000 par jour actuellement, soit quasiment le triple du chiffre que le gouvernement s'était fixé. Pour la ministre de la Culture, pas le choix, il fallait donc retarder la réouverture des musées, des théâtres et des cinémas. Elle s'en explique.
Réouvrir le 15 avec toutes les difficultés de la réouverture de la billetterie, du reconditionnement des salles, des répétitions, etc., pour éventuellement refermer les salles de spectacle et de cinéma le 2, le 3 ou le 7 janvier, je crois que là, on assassinait la culture si on avait fait cela.
Et Roselyne Bachelot a passé la nuit au téléphone, dit-elle, pour rassurer et pour dire que personne ne sera laissé de côté.
On va être là pour les accompagner. Je sais bien que l'argent, pour un artiste, ça n'est pas tout. Mais j'ai dit au Premier ministre que j'avais besoin de 35 millions d'euros supplémentaires pour faire la fin de l'année et je sais que je les obtiendrai.
Voilà la promesse, mais la grogne monte du côté des musiciens, directeurs de salles ou comédiens et elle risque de faire du bruit dans les prochains jours.
Merci Claire Flochel. Alors, maigre consolation, si les cinémas, les théâtres, les musées avaient espéré cette réouverture comme une bouffée d'oxygène, on notera que chez nos voisins européens, la situation n'est pas davantage favorable. L'asphyxie, Olivier Poujane, gagne notamment aujourd'hui l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni.
La colère, le sentiment d'abandon des artistes britanniques lâchés dès le premier confinement. Quelques mois plus tard, 30% des musiciens en Grande-Bretagne ont dû changer de métier. Le producteur Damon Albarn dénonçait récemment l'absence totale de considération du gouvernement pour les arts. Un point de vue partagé par Alexander Wright, le metteur en scène de Gatsby le Magnifique, l'un des rares spectacles à résister à la crise.
Les autorités ne font absolument pas assez. Je dirais même que le secteur culturel dans son ensemble n'est pas du tout soutenu par notre gouvernement.
Les salles de spectacle londoniennes sont encore épargnées, mais la capitale est un des plus gros foyers de contamination. Leurs portes pourraient de nouveau se refermer dans une semaine. Une sentence déjà prononcée en Allemagne jusqu'à la mi-janvier. Mais les mots d'Angela Merkel au bord des larmes et l'annonce d'un nouveau coup de pouce financier pour compenser les pertes de revenus de chaque producteur de théâtre et de musique. Ces mesures viennent consolider le plan d'1 milliard d'euros mis en place par l'État en complément du large soutien déjà apporté par les Länders. Une considération beaucoup plus relative en Italie où les acteurs de la culture sont totalement délaissés. Les 200 milliards d'euros d'aide européenne sont attendues avec impatience, mais le monde artistique sait déjà qu'il n'en récupérera que des miettes.
Toujours s'agissant des annonces hier soir du gouvernement sur ce vrai faux déconfinement, les stations de ski françaises seront bien ouvertes pour accueillir les familles. En revanche, les remontées mécaniques ne seront pas accessibles au grand public. La mesure a été validée ce matin par le Conseil d'État. Seuls les professionnels dans l'exercice de leur activité, les pratiquants mineurs licenciés au sein d'une association affiliée à la Fédération française de ski et les sportifs de haut niveau pourront en profiter. C'est dans ce contexte donc qu'une rencontre était organisée ce matin en visioconférence entre le gouvernement, une délégation d'élus de montagne et des professionnels du secteur pour mettre en place une indemnisation adéquate. En termes d'indemnité, justement, le chômage partiel, dispositif le plus coûteux pour les finances publiques depuis le début de la crise, sera encore prolongé au moins jusqu'à la fin janvier 2021 pour l'ensemble des secteurs. Bercy l'a confirmé ce matin. Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Et puis au-delà, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, a de nouveau rappelé à Anne-Laure la doctrine du « quoi qu'il en coûte ».
Oui, avec une aide massive encore pour 2021, plus de 20 milliards d'euros d'aide d'urgence seront mobilisés l'an prochain pour soutenir les entreprises et les salariés à travers le chômage partiel. Sur ces 20 milliards, 5 milliards d'euros sont de nouveaux crédits pour abonder le fonds de solidarité. Ce dispositif, lancé au mois de mars pour les très petites entreprises, a été adapté au fur et à mesure de la crise et donc des besoins. Depuis le 1er décembre, il est recentré sur les secteurs les plus touchés par la crise, hôtellerie-restauration, sport, événementiel, culture. Et il peut désormais bénéficier à des entreprises de moins de 250 salariés. Ce fonds sera prolongé au moins jusque fin juin, annonce ce matin Bruno Le Maire, avec une adaptation, s'il le faut, à la situation sanitaire. Autre annonce, une extension du fonds de solidarité à des secteurs qui n'en bénéficiaient pas jusque-là. Certains prestataires du secteur événementiel, par exemple, le ministre a notamment cité les commerces de vêtements de cérémonie. Ce fonds de solidarité, c'est vraiment le pilier de notre aide aux entreprises, précise le ministre de l'Économie, qui n'empêche pas des aides ciblées vers certains secteurs. Les aéroports vont ainsi bénéficier d'une aide de 250 millions d'euros, une aide également pour le groupe La Poste. Son montant devrait être annoncé dans la journée.
Merci Anne-Laure Jumet. C'est un sérieux revers au moment où d'autres démarrent les campagnes de vaccination. Les laboratoires Sanofi et GSK ont annoncé ce matin que leur vaccin anti-Covid ne serait prêt qu'à la fin de l'année prochaine. L'alliance franco-britannique visait initialement une demande d'homologation au premier semestre 2021 en vue de produire 1 milliard de doses. Après des résultats moins bons qu'attendus dans les premiers essais cliniques, ils tablent désormais sur une mise à disposition du vaccin au quatrième trimestre 2021. Alors c'est vrai qu'avec cette crise sanitaire, la présidentielle 2022 apparaît plus loin que jamais. Comment dans ces conditions imaginer préparer une campagne ou même tracer des perspectives d'avenir? Et pourtant, c'est aujourd'hui que le parti Territoire de Progrès, parrainé par deux anciens socialistes, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et celui des Comptes publics Olivier Dussopt, a décidé de tenir sa première convention ou comment faire exister Sophie Delpont, l'aile gauche macroniste, dans la perspective de la prochaine présidentielle.
On y trouve une majorité d'anciens socialistes, à l'image de l'un de ses fondateurs, le ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt.
Bien sûr, parce que le Parti socialiste a pendant longtemps été une force importante à gauche, et que beaucoup des cadres, beaucoup des adhérents, beaucoup des élus du Parti socialiste, je parle d'avant 2017, ont soutenu Emmanuel Macron, le soutiennent.
Parmi les 10 ministres adhérents, Elisabeth Borne et Olivier Véran notamment, aux côtés de 47 parlementaires. Ce mouvement doit donner une plus grande visibilité à l'aile gauche, selon Olivier Dussopt, un outil aussi pour canaliser d'éventuels frondeurs.
La possibilité de défendre un certain nombre de positions, toujours loyalement et extrêmement loyalement au président de la République, jamais avec l'idée d'un fractionnement. Nous avons connu ce que c'était qu'un système de frondeur et nous savons le prix politique et les désagréments que cela représente.
Pour le politologue Bruno Cotresse, cette structure permettra aussi de déminer le terrain pour la prochaine élection présidentielle.
Donc on se doute bien qu'Emmanuel Macron a trouvé l'idée intéressante, lui qui cherche à rééquilibrer l'image de sa majorité et l'image de son gouvernement. Alors même que lorsque l'on demande aujourd'hui dans les enquêtes d'opinion aux Français de classer Emmanuel Macron, qu'en moyenne les Français situent Emmanuel Macron au centre droit.
Car l'un des enjeux essentiels pour le chef de l'État sera alors de tenter de convaincre qu'il a tenu la promesse du « en même temps » de 2017.
Tout autant que le Père Noël, c'est ainsi que la chef économiste d'une banque allemande avait illustré l'attente qui régnait ces derniers jours avant la réunion de politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Or, non seulement hier, la BCE aura tenu ses promesses, mais elle est même allée au-delà en renforçant son imposant dispositif de soutien à l'économie de la zone euro. L'enveloppe de son principal programme de rachat d'actifs spécial Covid est désormais portée à 1850 milliards d'euros, en hausse de 500 milliards, est disponible jusqu'en mars 2022, soit 9 mois de plus que prévu. Sans bonnet ni costume rouge, Angela Merkel peut s'enorgueillir d'avoir offert hier une belle victoire à l'Union européenne. Réunis à Bruxelles, les 27 ont en effet tous donner leur feu vert au plan de relance de 750 milliards d'euros. En l'occurrence, et en bon architecte du compromis qui a permis de rallier les derniers récalcitrants sur le mécanisme conditionnant l'octroi des fonds européens au respect de l'état de droit, la chancelière allemande a obtenu de la Hongrie et de la Pologne qu'elle retire enfin leur veto. Alors, au-delà de la question de savoir si l'Europe tout entière n'aurait pas malgré tout capitulé face aux menaces du Premier ministre hongrois, cet accord historique est évidemment une bonne nouvelle pour l'économie des 27 qui devraient tous recevoir à partir du milieu de l'année prochaine des dizaines de milliards d'euros supplémentaires. Toujours à l'occasion de ce sommet, les dirigeants européens sont tombés d'accord pour sanctionner la Turquie pour ses travaux d'exploration gazière dans des zones maritimes disputées avec la Grèce et Chypre, plus exactement. Et fidèle à son habitude, l'UE a acté le principe de mesures restrictives contre Ankara, tout en renvoyant le problème à plus tard. La décision ne porte en effet que sur des sanctions individuelles quand des mesures supplémentaires pourront être décidées en mars. En clair et pour l'heure, l'absence de consensus a notamment écarté l'adoption de sanctions économique. Enfin, les négociations se sont encore poursuivies ce matin, s'agissant cette fois-ci d'un nouvel objectif de réduction des gaz à effet de serre. Angélique Boin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en direct de Bruxelles. Les 27, Angélique, sont tombés d'accord pour réduire d'au moins 55% leurs émissions de CO2 d'ici 2030.
Et oui, et cela à l'issue d'une nuit blanche, d'échanges assez tendus entre les pays européens les plus riches et ceux pour qui cet objectif climatique signifie un changement jugé trop radical dans leur mode de production, les transports ou l'énergie. On parle des pays d'Europe centrale et de l'Est, Pologne en tête, encore dépendant du charbon. Varsovie a d'ailleurs négocié pied à pied toute la nuit pour s'assurer d'obtenir suffisamment d'aide européenne pour y arriver. Mais près de 9 heures de tractation pour la planète, cela le valait bien. Ont reconnu ce matin les principaux leaders européens. Cela valait la peine de perdre une nuit de sommeil, a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel, qui termine sa présidence à la tête de l'Union, plutôt en beauté ce matin. Pour Charles Michel, le président du Conseil, ce nouvel objectif nous met la voie ouvre la voie claire vers la neutralité climatique en 2050. Un constat qui n'est tout de même pas partagé par les ONG ou même le Parlement européen, qui espérait de son côté un objectif de 60% et avec qui il faudra bien négocier l'accord arraché ce matin. Autre sujet qui ne manquera pas de faire polémique, dans leur conclusion de ce conseil, les 27 se laissent une porte ouverte pour continuer d'utiliser le gaz comme énergie de transition. Et puis l'objectif affiché, c'est une baisse nette d'au moins 55%. Un chiffre en trompe-l'œil, dénoncent les ONG environnementales, car il inclut en fait l'absorption naturelle des gaz à effet de serre par les forêts ou bien les terres agricoles.
Merci Angélique Bouin en direct de Bruxelles. Et pour continuer d'évoquer le climat et en particulier le 5e anniversaire demain de l'accord de Paris, invité aujourd'hui de la rédaction, Dominique Bourg, philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, spécialiste des questions environnementales. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Et à mes côtés pour vous interroger, Véronique Robérod. Bonjour Véronique. Vous avez présidé, Monsieur Bourg, jusqu'en décembre 2018, le conseil scientifique de la Fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Et déjà, au sein de cette fondation, vous sembliez un peu sceptique à la signature de cet accord de Paris quant à sa portée, mais aussi la capacité, au fond, des grandes économies à remettre en question leur mode de développement.
Eh bien, je dois dire que 5 ans après, mes doutes sont plutôt confirmés. Là, le côté qui était intéressant, si vous voulez, dans l'accord de Paris, c'était que on devait indiquer en toute transparence l'objectif qu'on se donnait et les moyens afférents. Donc ça, c'était très bien. Mais à partir du moment où vous avez un club de gens qui ne sont pas très incités à aller dans la bonne direction, qui sont, et puis on peut le comprendre, un peu obsédé par des questions de rapport de puissance, des questions de technologie, bah évidemment, ce mécanisme qui en souhaite intéressant a fait peu d'effet, d'autant plus que depuis lors, comme vous le savez, on a eu affaire à la vague populiste. Et donc, on est très, très, très loin du compte. L'objectif de l'accord de Paris, c'était moins de 2 degrés à la fin du siècle. Comme vous le savez, les 2 degrés, on va les atteindre au début de la décennie 2040.
Question de Véronique Robérod.
Dominique Bourg, cet accord de Paris, il pêche sur quoi? Son aspect non contraignant, juridiquement contraignant? Attendez, la promesse peut-être, cette capacité des États à faire des promesses et pas les tenir finalement?
Je dirais un petit peu les deux. Déjà, quand un accord n'est pas contraignant, c'est pas un très très bon signe. Ça veut dire qu'on n'a pas tellement envie, justement, d'y aller. En plus, le seul mécanisme qui paraissait, comme je viens de le dire, un peu équilibrer le système et permettre qu'on aille plus de l'avant. Mais en fait, il peut fonctionner rigoureusement à l'inverse, ce qui a été le cas. C'est-à-dire la non-action des uns a encouragé la non-action des autres. Par ailleurs, on a aussi, de façon générale, un problème de parole publique. Ça vient d'être rappelé avec l'analyse qui concerne les moins 55% de l'Union européenne. C'est très bien. Moins 55% en 10 ans, c'est gigantesque. Mais vous avez vu qu'en décryptant, ça masque déjà une partie du chiffre. Et puis, soyons très clairs, vous prenez la performance des pays du G20 pour 2019 en ne prenant en compte que leurs émissions directes, c'est-à-dire pas celles qui sont liées aux importations de biens sur un territoire pour certains pays, peuvent aller jusqu'à la moitié du bilan carbone. Et bien, la performance, en un an, c'est 0,1% de baisse. Comment voulez-vous qu'en 2019, on ait réussi à baisser de 0,1% et qu'on baisse de 55% en 10 ans? En plus, vous aviez un cabinet comme Belle Évolution qui avait montré ce que ça signifiait. Ça joue nécessairement sur les comportements des uns et des autres, sur les modes de vie, ce qui ne sont pas évidemment des choses simples.
Quand Nicolas Hulot, Dominique Bourg, dit en guise plutôt de message d'anniversaire aujourd'hui de l'accord de Paris, le monde va changer quoi qu'il arrive, car quelque part nous avons déjà perdu le combat climatique. Il veut dire quoi exactement?
Alors, ce qu'on a perdu, c'est pas le combat climatique en général. Ce qu'on a perdu, c'est quand même la première étape la plus importante, c'est-à-dire celle de l'accord de Paris. Celle de rester en deçà des 2 degrés. Alors, on dirait peut-être qu'avec l'absorption de carbone, on y reviendra à la fin du siècle, mais ça, c'est très, très spéculatif. Ça peut poser des problèmes en termes de biodiversité. Pour le moment, les émissions accumulées jusqu'à aujourd'hui, elles nous amènent déjà à effectivement plus de degrés par rapport à la seconde moitié du 19e siècle, plus de degrés dès le début de la décennie. Plus de degrés, c'est déjà gigantesque. Ça signifie que vous aurez des journées entières, voire plus, dans de larges zones entre les tropiques, où l'accumulation de chaleur et d'humidité fera que ces zones-là, vous ne pourrez pas y respirer, c'est-à-dire là, vous ne pourrez pas évacuer la chaleur de votre corps, et donc elle va s'accumuler dans votre corps jusqu'à ce que vous mouriez. Ça, c'est 2 degrés. 2 degrés, c'est aussi la possibilité d'un abandonnement du système. Enfin, 2 degrés, c'est sortir du plafond de température qu'on connaît dans les aires interglaciaires, de tout le quaternaire. C'est quand même déjà pas mal. Quant au 1,5 degrés, on en est à 1,1. Comme vous le savez, si on ajoute sans doute ce qu'on masque avec les aérosols du sud, on est déjà potentiellement peut-être à 1,5, et les services météo anglais nous disent qu'on a au moins une chance sur 5 d'avoir les 1,5, sans compter ce que je viens de vous dire sur les émissions masquées, entre 2024 et 2025. Voilà où on en est. Nous sommes très loin déjà aujourd'hui l'objectif de l'accord de Paris. En ce sens-là, Nicolas Hulot a raison.
Le combat est mal engagé, on va dire. Le retour des États-Unis dans l'accord de Paris, malgré quand même ils ont montré plusieurs fois qu'ils pouvaient aussi tirer les accords internationaux vers le bas, c'est quand même une bonne chose.
Bien sûr, c'est une très bonne chose. Maintenant, il faut attendre les élections en Géorgie pour savoir si les démocrates auront ou non la majorité au Sénat, de façon générale au Congrès. Ça, c'est vraiment déterminant pour la marge de manœuvre qui sera celle de Joe Biden. Cela dit, attention, tout n'est pas perdu, même si on est certain maintenant d'avoir des dégâts extrêmement importants qui vont se faire sentir dans les années qui viennent. N'empêche qu'il faudrait quand même tout faire pour ne pas exploser les 2 degrés. Et de ce côté-là, il y a des forces dans la société qui sont présentes. À l'échelle des collectivités publiques territoriales, on est quand même beaucoup plus avancé sur la prise de conscience de ce genre de problème que sur le plan des États. Mais en même temps, regardez ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez quand même 73 millions de personnes, et qui j'exagère à peine, en tout cas menacent de mort par la Covid, les autres. Et les menaces de mort par le climat, tout ça en niant le fait qu'il y a un problème Covid et en niant qu'il y a un problème climatique. Et on voit bien que dans nos sociétés, si vous voulez, la polarisation sur ces questions-là est en train de s'accentuer, ce n'est pas non plus un excellent signe.
Merci Dominique Bourg, philosophe, professeur honoraire à l'Université de Lausanne, d'avoir répondu à notre invitation. Je précise que vous participerez ce soir au débat organisé sur les réseaux sociaux par Europe Écologie Les Verts à l'occasion de la Nuit du Climat. Et merci également à vous Véronique Robérotte. Au lendemain d'un dîner déjà stérile avec la présidente de la Commission européenne, le Premier ministre britannique Boris Johnson a choisi de faire monter la pression. Hier, selon lui, il existerait désormais une forte possibilité de voir échouer les négociations sur les relations commerciales post-Brexit. Les deux parties se sont données jusqu'à dimanche dernier délai pour trouver un terrain d'entente. Direction à présent le Caucase, au lendemain de la visite en grande pompe du président turc Recep Tayyip Erdogan pour célébrer la victoire azerbaïdjanaise contre les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh. La situation semble de plus en plus confuse à Yerevan, où les appels à la désobéissance civile, mais aussi à la démission du premier ministre Pachinian, accusé d'avoir capitulé devant l'ennemi, se multiplie. C'est un reportage signé Bastien Bory.
Un opposant est jeté sous nos yeux à l'arrière d'un fourgon de police. C'est la première fois qu'un homme politique est éjecté du Parlement arménien sous les huées de 20 000 manifestants.
Pachinian est un criminel. Il a donné nos terres aux Azéris et il nous a vendus aux Russes.
Si l'Arménie avait Erdogan comme premier ministre, l'accord de paix nous aurait été plus favorable. C'est le pire des cauchemars.
Deux coups de botte suffisent à cette femme pour briser un portrait de Nicole Pachinian. Au-dessus d'elle, le candidat déclaré de l'opposition dévoile son programme.
Si Pachinian ne part pas, certains s'occuperont de le lyncher. Qu'il s'en aille et qu'il nous laisse sa place.
Ancien Premier ministre, Vazgen Manoukian espère remettre la main sur le pays. Ses positions semblent aussi radicales qu'imprécises. Aucun mot, par exemple, sur les soldats disparus. Gayane est toujours sans nouvelles de son fils parti au front.
J'ai reçu un appel ce matin, c'était son numéro mais j'entendais rien. Je ne sais pas si c'est lui qui m'a appelé. Peut-être que c'était un soldat azéri.
Nicole Pachinian, lui, n'entend pas démissionner. Pas question de laisser revenir les proches de l'ancien régime, selon certains historiens.
Ils ont organisé des élections frauduleuses. Ils ont favorisé les oligarques et ils ont fait de notre jeunesse une génération d'ultranationalistes. Que peuvent-ils faire de plus une fois au pouvoir?
D'autant que le spectre d'une nouvelle guerre approche. Depuis Bakou, le président azéri veut maintenant reprendre la totalité du Karabakh à l'Arménie, qui ne se sent plus maître de son destin.
Un reportage à Yerevan signé Bastien Bory. Donald Trump, bien décidé à faire valoir son statut de président en exercice jusqu'à l'investiture de son successeur le 20 janvier prochain, a frappé hier un nouveau coup diplomatique en obtenant un accord de normalisation entre le Maroc et Israël. Alors cette annonce, au même titre que celle avec Bahreïn, les Émirats Arabes Unis ou le Soudan les mois précédents, est à replacer en réalité dans le cadre du plan américain de paix au Proche-Orient, sauf que dans ce cas précis, eh bien, elle a été assortie de la reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, au détriment donc des indépendantistes du Front Polisario. Alors avec quelles conséquences? Élément de réponse avec Nadine Epstein.
Décret présidentiel américain promulgué, suivi aussitôt des faits. Les États-Unis ouvrent un consulat à Dakhla, cité portuaire de 100 000 habitants en plein désert. Ce consulat aura d'abord un rôle économique pour soutenir le développement de cette ville. Le Maroc veut la transformer en ville phare du Sud et entend y consacrer plus de 7,5 milliards d'euros sur 5 ans. La reconnaissance totale de la marocanité du Sahara apporte au roi Mohamed VI un nouveau partenariat stratégique avec les États-Unis et leurs alliances dans tous les domaines vont se renforcer. Peu avant les États-Unis, plusieurs pays du Golfe, dont les Émirats arabes unis, ont eux aussi ouvert des consulats dans les provinces du Sud avec comme premier objectif les investissements économiques et commerciaux. Outre cet aspect financier, la décision de Donald Trump risque d'affaiblir encore un peu plus la position de l'ONU, chargée de régler la question du Sahara. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a tenu à rappeler que rien ne changeait et que la solution devait toujours être trouvée sur la base des résolutions du Conseil de sécurité. Or, depuis des mois, l'ONU n'a plus de représentant spécial chargé du Sahara et les négociations entre le Maroc, le mouvement indépendantiste du Polisario, l'Algérie et la Mauritanie sont au point mort. Le Maroc propose, lui, un plan d'autodétermination qui pourrait être relancé avec les Américains à ses côtés.
La une du Time réussira-t-elle à convaincre Donald Trump que l'Amérique a bel et bien changé de visage depuis l'élection du 3 novembre? Le président élu Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont tous deux été nommés hier personnalité de l'année par le magazine. On termine avec un mot du temps pluvieux avec l'arrivée d'une nouvelle perturbation atlantique qui traversera cet après-midi la moitié est du pays. À l'arrière de ce front, le ciel restera le plus souvent chargé avec quelques éclaircies. Quant aux températures, elles afficheront entre 4 et 13 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Julien Loquet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Annabelle Grolier pour le prochain journal de la rédaction.